et bienvenue dans cette émission. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé mercredi 8 janvier une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie. Selon le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, qui a fait le compte rendu de cette réunion, cette rencontre a permis de dresser un état des lieux complet de la situation sécuritaire dans le pays, avec un accent particulier sur l'Est, en proie aux violences. En présence de la première ministre Judith Suminwa, des hauts responsables des FRDC et des services de sécurité, la réunion a examiné les défis opérationnels et les stratégies à adopter. Le porte-parole du gouvernement a souligné que les FRDC ont repris l'initiative et dans les jours à venir, les territoires occupés par les forces d'agression seront récupérés un en un. Au-delà des questions militaires, le Conseil a abordé les aspects diplomatiques, notamment l'isolement croissant du Rwanda sur la scène internationale. Que pensez-vous de la détermination du gouvernement congolais à reconquérir tous les territoires occupés par les M23? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons ici au studio Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa. Il est premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID en sigle, le parti membre de la coalition Lamuka et notable du Kivu. Il est député honoraire. Bonsoir Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa.
Bonsoir Kimate, bonne année à tous les auditeurs et toute ma compassion aux habitants de Masisi, de Lubero, de Beni et de tous ces habitants qui peinent sous le poids de cette guerre injuste qui nous est imposée.
Merci Jean-Michel Kalonji, membre de l'Union sacrée de la Nation et coordonnateur de la base pour le développement du Congo BDC. Il est aussi membre du regroupement politique 2A / TDC, une des mosaïques de l'UDPS sous la coordination du professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi. Bonsoir Jean-Michel Kalonji.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir auditeurs, peuple congolais. La guerre injuste nous imposée aura fin un jour et il faudrait y croire avec le gouvernement en place. Merci.
Merci. Et Louis, il est en ligne, c'est Henri Pacifique Mayala, le coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Bonsoir Henri Pacifique Mayala.
Bonsoir Guy Maté, meilleurs voeux et à tous les Congolais et les auditeurs de la radio Kabi.
Merci pareillement Henri Pacifique Mayala. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiokapi.net.
Nous l'avons dit au sommaire, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé hier, mercredi 8 janvier, une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où la situation opérationnelle dans toute la RDC, spécifiquement dans l'Est, a été évoquée. Selon le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, qui a fait le compte rendu de cette réunion, les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront tous récupérés un à un. On écoute donc Patrick Muyaya dans cet extrait sélectionné par Blaise Makassi.
Nous venons de terminer une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès.
Jean-Baptiste Kasekwa, on va commencer avec vous. Je rappelle que vous êtes premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID en sigle, le parti membre de la coalition Lamuka et notable du Nord Kivu. Vous êtes également député honoraire. Le gouvernement congolais est déterminé à récupérer, à reconquérir tous les territoires sous le contrôle de la rébellion. Quelle lecture vous faites de cette déclaration?
C'est pas la première fois que le régime nous fait ce catalogue de bonnes intentions. Nous avons attendu beaucoup de promesses. Des promesses qu'avant Noël 2019, tous les ADF auraient été neutralisés à Beni. Et jusqu'à aujourd'hui, Les ADF continuent à tuer à Beni, à Mambasa, à Irumu, dans le nord, grand nord de Lubero. Et curieusement, à l'issue de la réunion du Conseil supérieur de la défense, l'attention est focalisée principalement sur le M23 que nous devons tous condamner, mais aucun accent n'est mis sur cette série noire infinie. C'est au moins 400 personnes qui sont massacrées chaque jour dans la zone de Beni Irumu. Aujourd'hui, la cité de Oicha est endeuillée. Plus personne ne peut quitter la ville pour aller dans les champs. Même les zones que nous pensions déjà sécurisées, la route Beni-Kassindi, dans les Rwenzori, les tueries reprennent de plus belle. C'est bien dommage que cela ne fasse pas l'attention du régime.
Au-delà de Et à votre avis, ça peut être dû à quoi? On donne beaucoup plus d'importance à la guerre nous imposée par les M23 par rapport à celle qui nous est imposée par les EDF.
La guerre nous imposée par les M23, elle est atroce, elle est pénible, mais elle capitalise l'opinion, l'attention du pouvoir, parce que elle menace beaucoup plus directement le régime. Et donc, la sécurité du pouvoir intéresse beaucoup plus nos dirigeants que la sécurité des personnes et de leurs biens. J'ai dit bien, à Beni, depuis que l'état de siège a commencé, nous avons les statistiques, alors que jusqu'à 2018, le dernier bilan de personnes massacrées à Beni, c'était 914. Depuis 2021-2022, eh bien, le taux a atteint le 4500 par an. Et, curieusement, comme que l'on ait tué 60 en Ituri, que l'on ait tué 85 à Eringeti ou à Mangurujipa, le régime n'est menacé à rien, eh bien, ça ne préoccupe personne. C'est la principale raison. Il n'y a pas d'autre explication. Alors, j'en reviens. Non seulement les promesses, c'est du déjà attendu, mais également des réunions du Conseil de sécurité, on en a toujours eu. Je voudrais rappeler ici qu'avant que Bounagana ne tombe le 13 juin, le 26 mai 2022, il y a une réunion du Conseil supérieur de la défense qui s'était tenue. Et l'ennemi a continué à occuper Rutshuru, à occuper Tongo, à opérer le massacre de Kishishe. Il a poursuivi sa tuerie sur Massissi jusqu'à Rubaya, aller dans le Grand Nord jusqu'à Limongo. Et les résolutions de toutes les réunions du Conseil supérieur de la défense sont restées lettres mortes. Donc, ce n'est pas la tenue d'une réunion qui constitue la réponse au drame. Mais également, Patrick Muyaya, dans le compte-rendu, dit « on a abordé les aspects opérationnels, les aspects diplomatiques, les aspects judiciaires, les aspects, je ne sais pas quel autre aspect, et à ma grande surprise, l'aspect humanitaire a été oublié. Je me pose la question si Muyaya était informé que, avant que le Rwanda ne vienne endeuiller le centre de Massissi, Massissi régorgeait 5 grands sites de déplacés. Des déplacés venus de l'axe Sake-Kichanga-Birambizo.
On ne connaît pas les ressorts pour le moment.
Ils sont dispersés dans les forêts. La grande partie concentrée à Nyabiondo. Nyabiondo, c'est inaccessible par les humanitaires. Et ils sont là abandonnés à leur triste sort. Et Conseil supérieur de la défense ignore complètement l'aspect humanitaire qui constitue un drame. À part ces 5 sites de déplacés qui étaient autour de Massissi, vous avez également les 14 sites autour de Goma. Mais sans compter tous ces déplacés, Eyafui, Kirumba, Alimbongo, Kassé, Dalembingi, qui sont concentrés au chef-lieu de Lubero, dans la ville de Butembo, abandonnés à eux-mêmes. Tous ces déplacés pourchassés par les ADF depuis longtemps. Est-ce que cet aspect-là, ce fond-là, ne mérite pas une attention particulière, d'autant plus que les réponses n'exigent pas qu'on aille taper, qu'on aille, je ne sais pas, au Conseil de sécurité, à Addis Abeba. Et curieusement, Le Conseil de sécurité n'a dit mot.
Voilà, et s'il faut revenir sur cette déclaration du Conseil supérieur de la défense, vous dites que ce n'est pas la première fois qu'on entend cette rhétorique. Est-ce que cette fois-ci, on peut quand même être certain que les objectifs pourraient être atteints?
Alors, la seule chose que j'ai notée avec attention, c'est de dire désormais, nos forces reprennent l'initiative. Et là, j'aurais bien voulu que Patrick Muyaya dise que le gouvernement a demandé pardon au peuple congolais. Parce que depuis longtemps, nous avons dit que nous avons affaire à un État voyou qui n'attaque que le langage des armes. Et en octobre, je pense, le 12 octobre 2023, Muyaya a pris la parole pour dire « Dès que la majorité du peuple congolais réclame une réponse militaire à la barbarie du Rwanda, le gouvernement a opté pour une solution diplomatique. » Aujourd'hui, il revient à la charge pour dire « Désormais, le gouvernement, les FARDC vont reprendre l'initiative. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire depuis mai 2022, jusqu'à la réunion d'hier, ils avaient opté pour la logique de cesser les feux. Une logique de défensive que Chirimwami, le gouverneur militaire du Nord Kivu, avait bien expliqué que la hiérarchie militaire ne lui a pas donné ordre de combattre l'ennemi. La hiérarchie lui a donné ordre de défendre le cessez-le-feu. La société civile du Nord Kivu a décrié cela pour dire le Rwanda ne comprend que le langage des armes. Des Wazalendo se sont mobilisés. Des jeunes se sont engagés volontairement. La plupart ont passé même 6 mois devant dans la cour de la 34e région militaire à Goma pour dire, s'il vous plaît, nous nous sommes prêts à rejoindre l'armée, allez nous former. À Beni, même chose, des jeunes se sont mobilisés pour dire, pour nous, il n'y a que la réponse militaire. Et aujourd'hui, que Muyaya se repente pour dire que désormais, les FARDC reprennent l'initiative, c'est une bonne chose, et c'est ici l'occasion de saluer effectivement le bravoure de nos forces. Par la reconquête de Ngungu, de Rushoga, la reconquête de Massissi Centre, bien que les forces ennemies soient revenues à la charge aujourd'hui. Mais nous savons qu'avec la détermination de la population de Massissi Centre et Kagame Lesé, s'il y a des entités difficiles à contrôler dans le Nord Kivu, vous pouvez compter sur Massissi. Et donc, avec l'appui de ces populations, les FARDC ont démontré une fois de plus, comme il avait déjà démontré en octobre 2023, que l'armée rwandaise n'est pas invincible, que si l'armée, appuyée par les Wazalendo, sont motivées, encadrées, avec une chaîne de commandement sérieusement engagée, eh bien, nous pouvons opposer au Rwanda le seul langage qu'il attend, c'est-à-dire une réponse militaire. Et nous allons équilibrer les rapports de force, nous allons collaborer d'égal à égal avec le Rwanda pour stabiliser la sous-région des Grands Lacs.
Merci Jean-Michel Kalonji, vous êtes membre de l'Union Sacrée de la Nation et coordonnateur de la base pour le développement du Congo, BDC en sigle. Vous êtes aussi membre du regroupement politique DESA-BAR-TDC, une des mosaïques de l'UDPS sous la coordination du professeur Isaac Jean-Claude Chilumbay. Comment vous également vous expliquez cette détermination du gouvernement à reconquérir les territoires sous occupation de la rébellion?
Le gouvernement a pour objectif de sécuriser le territoire congolais, défendre notre souveraineté. Ça, c'est un engagement que le président de la République a toujours pris et s'engage à le faire. Mais nous sommes dans une guerre qui, depuis 1997, nous est imposée. Depuis 1996, il nous est imposé. Donc une guerre asymétrique qui, aujourd'hui, l'économie de la guerre a pris les dessus. Aujourd'hui, cette guerre qui aussi est une guerre des minerais, l'exploitation des minerais après les déçus. Une guerre où nous sommes composés d'une armée issue de la belligérance. Une armée composée avec des anciens rebelles, des anciens défestistes de l'armée, des hors de la loi. Au sortir de Sand City, nous avons recomposé une armée avec tous les rebelles. Même le M23 réclame
l'application des accords avec un groupe rebelle qui est le FDC, autre chose. Donc nous avions une armée qui n'est pas attrayante à la guerre, parce que ces personnes pensent que ceux qui sont de l'autre côté, qui font la guerre, ce sont des anciens camarades des luttes. Nous avons connu beaucoup la traîtrise dans notre armée. Donc, quand une guerre comme celle-ci nous est imposée, il faudrait, premièrement, étudier le terrain et savoir est-ce que nous sommes prêts pour cette guerre. La RDC est sous embargo militaire depuis plusieurs décennies. Est-ce que nous avions des munitions pour tenir pendant un mois de guerre à tir échangé?
Entre-temps, l'embargo a été levé, n'est-ce pas?
Cet embargo est de non. Je peux vous dire que jusqu'aujourd'hui, si vous nous montrez un seul pays qui a accepté de vendre les armes à la RDC, dites-le nous.
On peut nous dire que les armes que nous achetons maintenant, nous les achetons où?
Mais c'est pour cela, il faudrait vous dire que nous, il faudrait beaucoup de stratagèmes pour pouvoir armer et avoir une logistique militaire qui nous permet de faire face.
Voilà, comment vous, donc, vous expliquez la détermination exprimée
aujourd'hui
par le Conseil
supérieur
de la défense?
Je peux vous dire que, après cette situation, le président de la République est en train de prendre plusieurs mesures avec le gouvernement souminois qui est en place. Il y a eu, en début de le mois passé, il y a eu une nouvelle mise en place au sein de nos forces armées congolaises, donc avec une nouvelle mission. Aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre les dessus sur l'armée, parce que nous avons pris le temps de recruter, de former nos jeunes. Comme mon co-débatteur l'a dit, il y a eu beaucoup de jeunes de l'Est du pays qui connaissent la zone. La zone de l'Est, elle n'est pas une zone facile, c'est une zone beaucoup montagneuse, avec un climat très difficile. Il fallait avoir des militaires engagés, mais qui sont de cette zone militaire. Donc, nous avons eu le temps de les former, nous avons eu le temps d'avoir une logistique militaire qui peut faire face à cette guerre. Nous avons aujourd'hui une dynamique qui nous permet de faire face à la guerre. Mais aussi, quand des pays amis vous demandent d'aller sur une table de discussion, vous ne crachez pas sur vos pairs. Nous sommes allés en Angola et vous avez vu que le président rwandais qui était annoncé s'est défilé la veille. Parce que il sait qu'il n'avait pas intérêt à avoir des accords politiques. Et au constat de cela, aujourd'hui, aucun pays ne peut nous reprocher d'avoir pour seule action que la guerre. Et avec cette dynamique, nous allons reprendre les dessus sur les territoires. J'ai vu mon co-débatteur parle tout à l'heure de déplacer des guerres, de la partie humanitaire. Mais comment vous engagez une forte logistique humanitaire si vous n'avez pas accès à ces zones? Parce que entre-temps, vous devez sécuriser les humanitaires qui doivent se déplacer. N'oubliez pas que dans cette partie de l'Est, nous avons connu, il y a quelques années, quelques mois, l'assassinat d'un diplomate italien. Ce sont des zones où il faudrait sécuriser avant de pouvoir engager
les humanitaires. Cela n'empêche pas au gouvernement d'évoquer cette question.
Cette question est d'actualité tous les jours. Pourquoi? Il y a quelques jours, la première ministre, son excellence, madame Judith Suminon, était dans la partie Est pour ces questions humanitaires. Elle a fait la tournée de cette zone de l'Est. Donc la question humanitaire est d'actualité et il y a des actions qui sont menées tous les jours. Donc on ne peut pas parler d'une question qui est régler tout le jour, parce que nous avons autant de déplacés internes. Nous avons des populations des pays limitrophes qui sont dans notre pays comme des déplacés, des réfugiés en interne.
Les donc, exactions des EDF à Beni, à Ituri n'ont pas été évoquées, comme l'a dit le député Kasekwa.
Son Excellence Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, a parlé des points saillant de la Réunion. Mais toutes les questions, quand on parle de la sécurité de l'Est, toutes ces questions sont reprises comme sous-point de cette réunion.
Oui, Jean-Michel Kanji, on a l'impression actuellement que le gouvernement privilégie beaucoup plus l'approche militaire que l'approche diplomatique. Est-ce qu'on peut comprendre par là que le gouvernement est cette fois-ci certain de l'emporter sur les terrains militaires?
Le gouvernement est certain de l'emporter sur les terrains militaires. Et vous pouvez voir comment le gouvernement se déploie depuis les 60 derniers jours. Il y a eu un réaménagement stratégique au sein de nos forces armées. Le président de la République est revenu directement du Qatar et assisté à la prise d'armes du commandement militaire. Aujourd'hui, ce commandement militaire a pris fonction et a commencé à engager des actions en fonction des objectifs lui attribués par le chef de l'État, le commandant suprême de nos forces armées. Et nous sommes convaincus que dans les jours qui suivent, dans les mois qui viennent, cette question de la guerre de l'Est sera résolue. Mais nous avons besoin du soutien de la population de l'Est du pays. Parce que il y a aujourd'hui nos concitoyens qui bénéficient, qui gagnent de cette situation, qui continuent à soutenir l'exportation illégale de nos minerais, l'exploitation dans ces zones de guerre. Cette guerre nous est imposée à cause de nos minerais. Le Rwanda, l'Ouganda est aujourd'hui premier exportateur de l'or, premier exportateur de la cassiterite, de nos minerais, alors qu'ils n'ont aucune mine pour ces exploitations. Merci. Donc il faudrait que nos frères et sœurs de l'Est du pays arrêtent de collaborer avec l'ennemi.
Ok, vous êtes certain qu'il y a cette collaboration avec l'ennemi?
L'or ne peut pas se retrouver exporté au Rwanda si cet or n'a pas traversé. Et cet or ne va pas traverser par d'autres voies que la voie de transport humaine. Il a fallu que nos mines soient exploitées. Il a fallu une logistique de transport jusqu'au Rwanda déclarée et exportée. Donc il faudrait que les troupes armées, nos frères qui composent ces troupes armées, comprennent que la solution du Congo ne doit être qu'avec des Congolais et arrêter de faire l'économie Merci. De nos ennemis.
Merci Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Vous aussi, quelle analyse vous faites de cette détermination exprimée par les gouvernements congolais à travers ces conseils supérieurs des défenses à récupérer les territoires sous occupation du M23?
Oui, merci beaucoup Guy. À titre personnel, je pense que ça a été un soulagement de suivre l'annonce du ministre porte-parole du gouvernement. J'estime que c'est une confusion de mois, en tout cas quand on observe comment est-ce que la situation a été jusque-là gérée, où on ne savait pas exactement quelle était notre politique étrangère d'une part, ou la tactique militaire ou politique de défense d'autre part. Donc j'estime que si le gouvernement peut s'assumer à ce stade, on pourrait peut-être espérer des résultats sur le terrain. Mais qu'à cela ne tienne, comme le disait tantôt l'honorable Kasekwa, nous n'en sommes pas aux premières promesses. Et je continue de penser que les bonnes intentions constituent une motivation en soi, mais en termes de compétences de gestion, la bonne intention ne va pas finir les cris, les coups de balle sur terrain. Autre part, je me dis que la focalisation du gouvernement sur le conflit en cours concernant la rébellion du M23, sans pour autant mettre en avant un des conflits sur lesquels j'estime que le responsable numéro un, le gouvernement congolais, a beaucoup plus à faire en termes de proactivité, reste quand même problématique. L'honorable Kaseko encore y a fait allusion avec la crise EDF, qui reste de loin la crise la plus meurtrière, qui est, mais qui, jusqu'à un certain niveau, semble n'est pas vraiment... on semble ne pas accorder à cette crise beaucoup d'attention. Cela, pour moi, ça se justifierait encore dans cette posture de victimisation où, d'une part, nous avons un super bouc émissaire. Si ce n'est pas la MONUSCO qui est défaillante, c'est l'armée rwandaise qui nous attaque, qui est prouvée, prépare. Mais je pense que nous avons vu le gouvernement ougandais communiquer sur une base satisfaisante, que la menace a été éradiquée en tout cas pour ce qui le concerne. Mais d'autre part, pour la République démocratique du Congo, les EDF tuent maintenant à Mambasa, où ils n'ont jamais connu d'exaction ADF. Je pense qu'il y a besoin de garder cette même cohérence, que ça ne soit pas qu'une chaîne de bonnes intentions, mais que dans les faits, on puisse le voir.
Peut-être pour faire Mayala, un bon caractère. Henri Pacifique Mayala, on a l'impression qu'on n'hésite plus à prendre l'initiative. Le porte-parole du gouvernement l'a annoncé. Là, après t'as martelé là-dessus, les FARDC prennent maintenant l'initiative. Vous avez suivi même nos deux interlocuteurs qui sont ici sur au studio. On n'hésite plus à prendre l'initiative de combat. Et alors qu'à un certain moment, tout le monde semblait, n'est-ce pas, se conformer au cessez-le-feu. Et à votre avis, comment on est passé du cessez-le-feu à cette escalade qu'on observe actuellement sur le terrain, alors qu'à l'époque, personne ne voulait, n'est-ce pas, assumer la responsabilité des violations de ces cessez-le-feu.
C'est tout ça, cher Gu. J'ai parlé d'une confusion des mois. Je n'ai pas fait allusion à une levée de confusion. Parce que pour quelqu'un qui vit à Beni, quelqu'un qui vit dans un camp de réfugiés autour de Goma et qui a laissé champs et maisons derrière lui à Sake, prise d'initiative veut dire que nous avons fait appel à une force offensive, la SADC, et que voilà, la SADC a déclenché les hostilités. La SADC a été dans cette posture à répondre de son mandat. Là, alors, on dira que voilà, la politique étrangère a rencontré cette politique de défense et que nous avançons sur une synergie. Est-ce que les FARDC sont en train d'initier les offensives à l'égard du M23 ou les FARDC sont en train de répondre aux provocations du M23? Jusque là, il n'y a pas de réponse sur ce point. Je continue d'estimer qu'il y a mieux à faire. Une déclaration politique de cette envergure, c'est bon. Encore que pour faire un bond en arrière, comme je le disais, un membre du gouvernement qui donne une synthèse d'une réunion d'aussi grande responsabilité et qu'un autre membre du gouvernement menace les gens qui veulent réfléchir à contribuer à faire avancer les choses, trouver des solutions, ça fait persister dans cette même posture de confusion et d'auto-victimisation. Je pense qu'au-delà de déclarations, il faudrait que nous voyions d'actions matérielles. Et pour moi, les actions matérielles, c'est de s'assumer. Et s'assumer, c'est de le faire de bout en bout. Ce qui se passe dans le front autour de Masisi, c'est difficile, c'est complexe, où on se réveille le matin, les FARDC occupent les entités et que demain matin... les M23 ont repoussé les FARDC, la situation restait confuse. Et je pense que quand vous regardez l'ensemble de cette stratégie, il y a toujours des brèches qui ne se colmatent pas. Et forces qui sont en place ici, par exemple, dans la province du Nord Kivu, nous avons la SADC, nous avons la MONUSCO, nous avons les FARDC et toute la mouvance de Ouazalendo. Quel est le niveau de coordination entre ces différentes forces pour que nous soyons rassurés que cette initiative, quand elle sera prise de façon matérielle, la chaîne de commandement sera bien connue, que les Ouazalendo sauront qu'ils répondent du commandement des tels, que les forces de la SADC savent qu'ils peuvent bénéficier du soutien matériel de la MONUSCO, qui est une question diplomatique de haut niveau, qui reste jusque-là non résolue. En tout cas, aux dernières nouvelles, nous ne savons pas que les forces de la SADC sont en mesure d'exécuter leur mandat. Et tout cela questionne encore la responsabilité du gouvernement. Les questions humanitaires vont se soulever. Le co-débatteur faisait allusion à l'accessibilité. Il ne faudrait pas que les questions d'accessibilité soient une raison de désengagement. Si nous pouvons avoir des mandataires qui sont gracieusement payés, les mêmes moyens peuvent servir à avoir des moyens d'accessibilité à nos populations. C'est toutes ces questions-là, Guimaté, que j'estime, nous devrions rester cohérents sur notre façon d'agir. Et cela commence par avoir nos responsables tenus à répondre aux attentes des populations.
Et à votre avis, quels peuvent être les atouts actuellement des FARDC?
Aujourd'hui, je pense que les FARDC tactiques sur le plan tactique, j'ai toujours dit que c'est une armée qui peut bien porter les critiques qu'elle porte, comme le suggérait tantôt mon co-débatteur. C'est une jeune armée qui peine à devenir un corps au vu de son historique où c'est un amalgame de brassage et mixage, mais c'est une armée qui, tactiquement, n'est pas faible. D'ailleurs, il faudrait voir la gouvernance interne et tous les maux qui gangrènent les FARDC, partant du clientélisme au détournement, la corruption au sein des forces. Tout cela, ça tue. Je pourrais évoquer la question de remaniement, la question de responsabilité ou de conflit persistant entre la maison militaire et le ministère de la Défense. Tout cela, je pense que avant que nous ne puissions espérer aux résultats tangibles sur le terrain, vu que nous avons cet avantage en termes de nombre, connaissance de l'environnement, la tactique, il faudrait que le traitement social, autant que la prise en charge, suive aussi.
C'est donc, pas normal donc, que nous ayons des militaires il n'est pas impossible que les rapports des forces changent sur le terrain en faveur des FARDC.
Exactement, je le confirme. Mais pour que nous puissions prétendre à cela, nous devrions être assez responsables. Il n'est pas concevable que nous ayons des hommes en uniforme qui fuient devant l'ennemi parce qu'ils n'ont pas perçu leur solde. Il est inconcevable que nous ayons des hommes qui se sont engagés parce qu'ils aiment ce pays, mais qui se retrouvent dans une vulnérabilité extrême et qui se retrouvent dans une position à fuir devant l'ennemi parce qu'ils n'ont pas mangé depuis des jours, alors que leur solde est détourné, connu et su aux yeux de tous, et qu'il y a des responsables qui malheureusement ne sont pas dérangés. C'est tout ça ces problèmes que l'on devrait mettre sur la table, se regarder droit en face, prendre les responsabilités, les adresser, mettre le militaire dans son droit, et nous allons voir les résultats, ils vont suivre. On l'a vu à Kichanga, on l'a connu dans ce pays en 2013.
Merci.
Pourquoi pas aujourd'hui?
Merci. On va maintenant écouter les réactions des auditeurs hein, qui sont nombreux, qui veulent, n'est-ce pas, donner leur point de vue par rapport à ces sujets. Jean-Baptiste Kassékoua, vous allez réagir à la réflexion de cet auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo.
C'est Franck Bilali depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo. La fois passée, on a cru que le chef d'état-major Tshiwewe, avec la confiance lui accordée par le président de la République, allait ramener la paix de manière définitive sur la partie est du territoire. Malheureusement, après son passage, nous savons les résultats qui a suivi. À mon avis, s'il y a des choses que le gouvernement devrait prioriser actuellement, c'est la question de rétablir la paix à l'Est. Tout le débat qui se fait ça et là, ce n'est que pour l'intérêt égoïste et malsain, pendant qu'on ne cesse de compter le nombre de morts et de déplacés internes dans les zones en conflit. Il est souhaitable qu'on réorganise l'armée, changer tous les chefs des bataillons qui dirigent les opérations, car depuis qu'ils sont là, les résultats n'est pas escompté. Que les chefs d'état-major fassent un toilettage au sein de l'armée, car il y a des commandants qui font de cette guerre un business. C'est pourquoi la guerre ne s'en finit pas. Je recommande au gouvernement congolais de mettre à la disposition de nos FARDC tous les moyens nécessaires pouvant lui permettre de faire face à l'ennemi et de ne pas toujours continuer à citer les Rwandais dans tous leurs discours, car ni le Congolais ni ignorant que cette guerre nous a été imposée et les Rwandais bénéficient de l'appui de ceux qui vous croyez aujourd'hui pouvoir s'isoler des régimes de Kigali. Merci.
Et il y a aussi Ornicar Banza qui nous écrit depuis l'ICASI. Il dit qu'il était important de tenir une telle réunion du Conseil supérieur de la défense élargie, mais il n'était pas important que celle-ci soit médiatisée car l'ennemi aura une préparation conséquente. Il est vraiment imprudent de communiquer médiatiquement sur les mesures face à la guerre dans l'Est de notre pays. Et honorable Jean-Baptiste Kasekwa.
Merci pour les réflexions pertinentes donné par les auditeurs. Franck exprime l'espoir déçu. On va de changement à changement. Tshiwewe a été là. Maintenant, c'est un nouveau chef d'état-major. Bientôt, la reprise continue au niveau des différentes unités. Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à tous ces compatriotes qui prennent la responsabilité, et ils doivent être conscients.
Et il faut rappeler que cela a été aussi un des préalables, c'est pas qui nous avait permis de défaire les M23 en 2013. Hein.
Bien
la mise
entendu,
en place au sein de l'armée
entendu,
et des services de sécurité.
Mais là où nous devons avoir le courage de poser les bonnes questions, c'est au niveau de la présidence de la République, de la maison militaire, du chef de l'État. En avril 2021, l'Assemblée nationale a mis à place une résolution créant une commission d'enquête destinée à examiner la destination des fonds alloués aux opérations à l'Est. Parce que s'il y a des complices de la guerre qui prévaut à l'Est depuis des années, les principaux complices sont Tapida de Bigo à Kinshasa. Et cette commission a été bloquée. Et parmi les zones de blocage figurent tous ceux qui dépendent de la présidente de la République qui ont dit aux députés membres de cette commission qu'ils n'avaient pas à répondre, n'est-ce pas, aux questions des députés nationaux. Et donc, que de nouvelles mises à place soit établi, c'est une très très bonne chose, mais nous devons avoir le courage de poser de bonnes questions. J'ai noté dans les comptes rendus du Conseil supérieur de la défense que les aspects judiciaires seront amorcés. J'aurais bien voulu que ces aspects commencent au niveau de l'armée et du haut commandement pour nous dire, par exemple, ce qui s'est passé à Kichanga. Les FARDC donnent de leur sang, reconquièrent tous ces villages de Kiloliwe jusque à Kichanga, à moins de 12 jours. Mais tout d'un coup, il y a un ordre. On relève des unités sur les lieux. On pense qu'il y a des commandants qui ont commis des crimes. Je connais certains, je suis de Goma, je le vois à Goma, qu'ils disent nous avons été ramenés de Kichanga, nous pensions que notre sort était réglé parce que nous aurions commis des fautes lourdes. Curieusement, une année, deux ans, il n'y a rien. Parce que, non seulement on les relève, mais même, on va jusqu'à vider l'état des sièges de son contenu, on retire la conduite des opérations, de la compétence des gouverneurs militaires, pour établir des chaînes de commandement parallèles. Et pendant que l'on instaure ces systèmes-là, on voit les agglomérations tomber les unes après les autres. La population dénonce, décrit. On fait des rappels de certains commandants à Kinshasa. Après deux mois d'audition, ils reviennent sur le terrain. Les agglomérations tombent les unes après les autres.
aucune sanction. S'il y a des poursuites judiciaires à opérer, il ne faudrait pas que le ministre de la Justice donne les kilos et poursuivre un Jean-Baptiste qui aurait dénoncé des détournements des millions. Des rapports sont là, état de siège. 74 millions débloqués et puis tout d'un coup, une clique d'individus se partage 68 millions en espèces. Personne ne peut les arrêter et quand on dénonce, on dit, on va, non. Les poursuites judiciaires doivent être orientées contre les personnes qui assument des responsabilités.
Merci.
Et pour cela, la peine de mort devrait être appliquée, mais qui va appliquer la peine de mort lorsque ce sont les responsables eux-mêmes qui sont les premiers à mériter cette peine?
C'est bien dommage. Vous les accusez, apparemment vous avez des preuves. Hein?
Mais ils savent que les rapports sont établis.
Merci.
Des scandales de détournement des millions ne sont pas opérés par des chefs de bataillon qui se retrouveraient à Maïndombe. Mais c'est ici, à Gombe, à Kinshasa.
Merci Jean-Michel Kalonji. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Bounia, en Ituri.
Bonsoir Radio Okapi, c'est Georges Kilangalanga depuis Bounia dans la province de l'Ituri. Les rébellions et toute autre forme de violence sont des expressions politiques hors système qui ont pour objectif soit de contester l'autorité de l'État, soit de mettre en danger son existence. Il est donc très normal qu'un pays comme la RDC en proie aux violences puisse prendre des mesures pour restaurer la paix et reconquérir son intégrité territoriale. Il est ici donc question de son existence. Par ailleurs, les termes « détermination » du gouvernement nous est déjà familier. C'est dit déjà entendu. La suite qui a toujours été réservée à cette détermination nous laisse toujours perplexes et stupéfaits. On mène des opérations militaires de grandes envergures seulement lorsque les ennemis font des percées remarquables. Et après que l'armée ait eu fait quelques avancées, on baisse le régime. Mais aussi, la reconquête de tous les territoires nationaux reste un chantier difficile pour la RDC. Car les groupes armés qui font des lois sont partout à travers le pays. Connaissant également notre système sécuritaire et les moyens qui sont alloués à l'armée et sa gestion, nous ne sommes pas donc rassurés quant à l'atteinte de cet objectif qui est par ailleurs salutaire pour les populations congolaises.
Il y a aussi Jean-Michel Kalonji, il y a cet internaute Estache qui nous écrit, dit « Nos politiques doivent savoir que notre réunion du Conseil supérieur de la défense ne peut pas intimider nos ennemis, on doit agir dans la discrétion et dans la sérénité. La population ne sera pas impressionnée par la victoire, mais plutôt satisfaite car elle a trop souffert.
» Je voudrais dire à Georges qui nous parle depuis Ituri, et je suis content qu'il dise cette expression politique de nos groupes rebelles qui s'aventurent d'une façon ou d'une autre à enlever la vie aux concitoyens congolais. Cette situation a trop duré. Les résolutions politiques et les résolutions des guerres qu'il faudrait prendre dans cette situation, c'est ramener la paix. Pour ramener cette paix, il faudrait se préparer. Il peut dire que à chaque fois que il y a eu des communications de ce genre, des grandes réunions comme celle-ci, après il n'y a pas de grande suite. Je peux vous dire que dans une guerre asymétrique comme celle-ci, l'ennemi, vous ne savez pas à quel niveau il se trouve. L'ennemi est déjà avec nous. Ces rebelles, vous pouvez constater que ce sont des membres de nos corps armés, des membres de nos corps sécuritaires. Ce sont des populations du jour, du vécu chaque jour. La personne que tu serres la main le matin devient rebelle le soir. Où il a toujours été. Donc cette traîtrise fonctionne parce que les groupes rebelles sont dans la population et sont membres de nos instances de sécurité. Donc le temps de déjouer tous ces mouvements, le temps de s'armer convenablement, il faudrait dire que dans un embargo ou pendant plusieurs années, notre armée ne s'est pas formée
et n'a pas acquis autant de munitions pour faire cette guerre. Donc quand elle nous est imposée, la riposte, elle ne peut être calculée. Aujourd'hui, quand le gouvernement congolais dit que nous allons en guerre et que vous allez constater cela, c'est parce qu'elle a pris le temps de s'aguerrir, de mettre une logistique d'approvisionnement en place et elle peut faire face. Mais comme mon co-débatteur l'a dit, l'honorable l'a dit tout à l'heure,
les aspects judiciaires.
Ces aspects judiciaires, il faudrait condamner. Il faudrait avoir une sanction forte. Moi, je suis partisan que pour cette guerre, il faudrait instaurer la peine de mort. Il faudrait avoir une sanction forte pour que même l'ennemi puisse avoir peur. Parce que l'ennemi n'est pas seulement un voisin, c'est un traître congolais. Et cet ennemi, il faudrait en finir avec. Je suis partisan qu'il faudrait que nous arrêtons les dialogues. Je soutiens le président Tshisekedi qui refuse de dialoguer avec le M23. Parce que c'est cette situation où colonel, capitaine, major se réveille un matin, forme un groupe rebelle, s'autoproclame général, donc saute en grade des 10 échelons et puis vient demain négocier avec vous et vous fait accepter son grade autoproclamé dans la brousse de Masisi. Nous devons arrêter avec cette situation parce que quand un militaire a déjà désobéi au commandement, s'est déjà rébellé, cette personne ne peut plus être intégrée dans un corps parce que l'armée doit être un corps et il nous a été difficile pendant tout ce temps de reconstituer ce corps qui doit être solidifié. Et aujourd'hui que nous l'avons solidifié, nous ne pouvons pas permettre qu'il soit encore désorienté en réintégrant des rebelles au sein de ce corps. Nous devons aller en guerre et nous allons finir avec cette guerre et nous soutenons notre gouvernement qui est en train de prendre les meilleures décisions, financer la guerre, armer la guerre et surtout résoudre cette question de la paye de nos militaires. Parce que les détournements, oui, elles ont toujours existé depuis plusieurs années et nous sommes en train de travailler mordicus pour que cette situation ne puisse plus perdurer et qu'elle finisse totalement.
Merci Henri Pacifique Mayala, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
Alphonse Tiefou, depuis la ville province de Kinshasa. Je salue la volonté du gouvernement congolais à établir la paix dans la partie est de la République. Cependant, on s'attendait à de très grandes décisions du gouvernement après la tenue du dit Conseil de la Défense. Par exemple, la fermeture des frontières avec le Rwanda, la convocation du Congrès pour demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Mais hélas, on constate que les décisions qui en émanent ne sont pas aussi conséquentes. Pour ce qui concerne l'isolement du Rwanda, je pense que ça doit coûter trop à la République, car elle n'a pas les moyens du pouvoir. Or, la RDC devrait commencer par interrompre toute relation avec le Rwanda et fermer ses frontières avec lui. Alors les autres peuvent nous prendre au sérieux. Cependant, comme la communauté internationale qui peut isoler le Rwanda ne le fait pas pour un intérêt ou un autre et ne semble pas être de notre côté, le gouvernement congolais doit se concentrer sur les efforts militaires, comme ses diplomatiques et politiques ont échoué. Car c'est tout ce qui nous reste. Merci.
Henri Pacifique Mayala.
Oui, je pense que ça s'aligne. C'est un cri de désespoir parce qu'après, les personnes qui sont désignées à porter les voix des Congolais jusqu'à là, ça fait 3 ans que Bounagana n'est pas sous contrôle du gouvernement central. Et comme on l'a toujours décrié, il n'y a pas de Congo sans Beni, il n'y a pas de Congo sans Bounagana. Ça a pris beaucoup de temps, mais vivement, je souhaite que nous atteignions cet équilibre. Je l'ai toujours dit que ça ne bénéficie qu'à la personne qui ne détient pas cette morale à percevoir dans la force comme un élément central de politique étrangère. Je continue d'accorder le crédit à la diplomatie. C'est que nous avons eu un précédent dans ce pays, comme tu l'as soulevé, cher Gu, En 2013, la solution qui a été efficace contre la première insurrection du M23, c'était des fortes impositions de sanctions, surtout financières, sur le Rwanda. Ça a été documenté, ça vient encore des lettres récemment par le rapport du groupe d'experts. Et il faudrait que, d'une part, notre gouvernement tire parti de ses atouts, mais d'autre part aussi que la communauté internationale, sur laquelle il ne faudrait peut-être pas porter beaucoup de foi, prenne aussi ses responsabilités. Dans l'entretemps, il faudrait travailler sur nos forces, parce que la solution ne va pas nous venir d'ailleurs. Ça ne sert à rien, je le redis encore, de continuer à payer des mercenaires ou instructeurs, soit-ils, au mépris de la rémunération de nos forces armées. Ça ne sert à rien d'entretenir les généraux corrompus ou supérieurs politiques ou militaires corrompus, parce qu'ils sont au-dessus de la loi, alors que nos militaires sur le terrain ne peuvent pas avoir de quoi manger. Je l'aurais dit encore, c'est bien de prendre des grandes décisions, de faire des grandes déclarations, mais ça serait encore mieux d'agir sur le terrain. Et peut-être si on ne peut pas agir sur le terrain, on peut commencer par des actes qui traduisent cette bonne volonté. Certains de ces actes seraient mettre en vigueur les dispositifs judiciaires, comme l'évoquait tantôt le député Kasekwa, afin de pouvoir prouver qu'il y a cette bonne foi que l'on peut matérialiser. En dehors de cela, la chaîne de bonne volonté et des promesses non réalisées risque de s'allonger et malheureusement, on n'aura pas de solution.
Henri Pacifique Mayala, nous sommes à la fin de l'émission, hein, on va conclure. Et on va parler des solutions. À votre avis, quelles sont les solutions pour l'instant, n'est-ce pas, pour pacifier et stabiliser l'est du pays? Est-ce qu'il faut aller exploiter les tout militaires ou alors il y a d'autres solutions, d'autres approches qui peuvent être, mises à profit?
Je suis conscient qu'une force armée efficace ne se construit pas du jour au lendemain. Mais nous pouvons essayer et il y a des atouts par lesquels nous pouvons commencer. Je suis d'avis qu'il faut parvenir à atteindre cet bon équilibre entre notre politique de défense et notre politique étrangère. Il y a des compétences, il faut que nous puissions les mettre en œuvre par-dessus tout. Il faut que nous puissions parvenir à adresser nos problèmes internes de gouvernance. Les grands mots, c'est par là qu'ils sont. Il faut que nos militaires soient rémunérés. Il faut que le soldat soit rendu dans sa dignité. Le combat sur le terrain, nous n'allons pas les gagner avec des longs discours, avec des chapelets de bonnes intentions. Et la matérialisation de tout cela ne va se traduire qu'une fois que nous commencerons à voir les actions tangibles. Ces Merci. Actions tangibles, c'est ce que j'ai énuméré, le social du militaire, la lutte de la corruption et l'instauration de la bonne gouvernance, surtout dans les secteurs de la sécurité.
Merci Jean-Baptiste Mouino Kasekwa, premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement et CD en sigle, parti membre de la coalition La Mouka et notable du Nord Kivu. Vous êtes député honoraire. Il a été dit ici que le contexte actuel semble favorable, n'est-ce pas, au FRDC. Et qu'est-ce que c'est FRDC ou que doit faire le gouvernement pour capitaliser ces atouts qui se présentent devant la RDC actuellement?
Trois choses que le président de notre parti, Marc Fayoulou, a proposées dans son message à la nation du 30 décembre. Première chose, le président dit, nos soldats courageux méritent d'être pris en charge et que l'argent dilapidé à Kinshasa à lui seul pourrait changer les rapports de force sur le terrain. Il faut que l'ordre des priorités change. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer que des millions soient débloqués dans des campagnes pour changer, réviser la constitution, qu'elle promette à nouveau des jeeps aux députés pour les corrompre à soutenir un projet de changement de constitution, alors que sur le terrain de Beni, de Rutshuru, des Sud-Kivu, dans le Maïndombe contre les Mobondo, nos militaires ont besoin de matériel lourd, des jeeps, des camions pour leur apporter des rations. Il faut que les priorités soient orientées vers là. Deuxième chose, le président Martin Fayoulou a appelé à la cohésion nationale. Il disait ceci. Il dit là où ça blesse, c'est qu'en pareille circonstance, il paraît évident que tout leader sensé chercherait un temps soit peu à tisser les liens entre citoyens et favoriser la cohésion nationale. Malheureusement, au lieu de ça, le régime à place s'emploie à diviser systématiquement les Congolais, notamment par des pratiques de corruption à ciel ouvert, des pratiques de tribalisme, des pratiques de révision constitutionnelle, jusqu'à menacer même les prêtres à les qualifier de sorciers. C'est révoltant, c'est inconscient, alors que nous sommes dans un contexte où le Rwanda veut appliquer le schéma du Kosovo. Kagame l'a dit lors de son séjour au Bénin. James Kabarebe a répété que pour eux, Masisi, Rutshuru, Kale et Walikale appartiendraient à l'ancien royaume de Rwanda. C'était le discours de l'Albanie contre la province serbe de Kosovo. Et ils ont mené un schéma soutien militaire à une rébellion fabriquée de toutes pièces. Et avec la complicité de la communauté internationale, on a organisé un simulacre des référendums d'autodétermination.
Et vous pensez qu'il y a possibilité qu'on puisse tendre vers cette situation?
Aujourd'hui, nous ne soutenons pas la mobilisation de la population de Masisi, de Ouazalène, de FARDC, et qu'on laisse l'ennemi aller de Masisi centre à Niabiondo. De Niabiondo, ce sera Walikale centre. Walikale centre ouvre la voie sur Tchopo, sur Maniema. Contrairement à ceux qui pensent que cette guerre-là, c'est une guerre de l'Est, une guerre de Masisi, ils seront surpris de constater que c'est toute la République qui est menacée. Enfin, la troisième solution, le président Martin a proposé ce qui suit. Que face à ces bilans désastreux, l'honneur aurait depuis longtemps imposé la démission. Il n'y a aucune honte à regarder ses concitoyens en face et à admettre son incapacité face aux problèmes multidimensionnels auxquels fait face le pays.
Merci.
Manifestement, le régime a failli. Le régime n'a pas les épaules assez solides pour nous mener à la victoire. Eh bien, le courage, parce que la nation va survivre, tous les autres vont disparaître, mais le pays doit survivre.
Merci.
Il n'y a aucune honte à prendre le courage à dire, bon, je jette le tablier, et que la nation s'organise.
On a compris. Jean-Michel Kalonji, membre de l'Union Sacrée de la Nation et coordonnateur de la base pour le développement du Congo BDC. Comment vous entrevoyez la suite?
Je vais dire ceci. La suite, elle est bénéfique pour le Congo. Parce que le Congo a compris l'ennemi, a eu le temps de former ses fils, ses vrais fils, a eu le temps de mettre en place sa logistique militaire, a eu le temps de maximiser les moyens pour faire cette guerre. Mais je voudrais revenir que pour faire cette guerre, il faut résoudre le problème social de notre armée, ce que nous sommes en train de mettre en place. Il faudrait une formation et cette logistique militaire. Mais je suis quand même déçu de voir que mon co-débatteur, qui est membre de l'ECD, qui connaît que l'apologie du tribalisme et le maître mot de la politique et du jeu politique de son leader qui est Martin Fayoulou.
Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, s'il vous plaît.
Comment vous entrevoyez
nous parlons de la situation?
Non, s'il vous plaît. Oui. Il a été dit ici que le pouvoir en place et le président Félix Tshisekedi est en train de séparer le peuple congolais. Parce que ce que son leader voudrait, c'est que, après avoir perdu aux élections, que nous puissions aller à une table ronde pour qu'il puisse se régénérer.
Jean-Michel
Kalonji,
il faut penser paix. Qu'est-ce qu'on fait pour que la paix soit consolidée dans ces pays?
Aujourd'hui, pour que la paix
et consolidée
puisse être consolidée, c'est renforcer notre appareil sécuritaire. C'est avoir une armée de dissuasion, une armée qui sait faire face, une armée qui sait débouter l'ennemi. On ne va respecter le Congo que quand le Congo sait mettre à genoux son ennemi.
Merci.
Nous sommes le seul pays à avoir
9 voisins, ce n'est pas sur des stratagèmes politiques pour se repositionner alors que le peuple congolais vous a sanctionné pendant les élections.
Merci, on a compris. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Jean-Baptiste Mouino Kasekwa, Jean-Michel Kalonji et Henri Pacifique Mayala. Merci aussi à Kelly Nkoute qui l'a réalisé, assisté de grâce à Hamza Tiedona Madimba et à Pierre Biasinois qui était à la technique avec la participation de Jonathan Fonani, Clément Chimanga et d'Hervé Voka, sous la supervision de Martin Sebujangwe à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bon suite de programme sur Radio Capier. Meilleurs vœux chez vous, meilleurs vœux pour l'année 2025. Voilà.